Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر Allahi qarib Ala inna nasrallahi qarib Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 12 mai 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. L'Iran s'engage à renforcer l'armée syrienne face à Israël. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, libération de deux ressortissants français détenus en Iran, remerciement de la ministre française des Affaires étrangères. Riyad nomme son nouvel ambassadeur en Iran. Et puis, quatrième jour de bataille de la résistance, 886 missiles et roquettes tirés sur la Palestine occupée, dit Israël. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. La ministre française des Affaires étrangères a remercié l'action humanitaire de la République islamique d'Iran pour la libération de deux citoyens français et l'a qualifiée d'étape efficace et de renforcement de la confiance. Selon l'IRNA, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, recevant ce vendredi un appel téléphonique de son homologue française, Catherine Colonna, a rappelé les relations culturelles et historiques profondes que partagent les deux pays avant de qualifier d'étape positive le fait que la France a fait preuve du réalisme envers la République islamique d'Iran. Tout en se référant aux récentes déclarations du président français concernant l'indépendance stratégique de son pays, le ministre iranien des Affaires étrangères a considéré les efforts concrets pour réaliser cette stratégie comme une étape efficace dans le monde en mutation actuelle. Le très haut diplomate iranien revient également à cette occasion sur les évolutions tragiques palestiniennes. Tout en condamnant les crimes de guerre du régime sioniste à Gaza, Amir Abdollahian a déclaré « Lors de ma visite au Liban, j'ai réalisé que la résistance palestinienne est déterminée et prête à défendre les droits de la nation palestinienne et que les évolutions en Palestine ne sont certainement pas en faveur des dirigeants bellicistes du régime sioniste. » Concernant le corps des gardiens de la révolution islamique, il a ajouté « Le CGRI a un rôle unique dans la sauvegarde de la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme takfiri dans la région. Le CGRI est notre ligne rouge en tant que protecteur de la sécurité nationale. » Toujours lors de cette conversation téléphonique, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a pour sa part souligné que son pays a eu une réunion et des discussions constructives à Pékin en allusion à la récente visite du président français et elle-même en Chine, où elle a également pu rencontrer son homologue iranien en visite à Pékin. La ministre française des Affaires étrangères, tout en se félicitant de la prise en compte de la politique d'indépendance stratégique par l'Iran, a ajouté qu'un dialogue constructif est le meilleur moyen d'aider à résoudre les problèmes et à cet égard, la France se félicite de la poursuite d'un dialogue constructif et approfondi entre les deux pays. Concernant les évolutions en Palestine, Catherine Colonna a ajouté « Les développements à Gaza sont une grave préoccupation pour la France. Sur cette base, nous poursuivons l'accélération de la réduction des tensions et de la cessation des conflits militaires. » Elle a également remercié l'action humanitaire de la République islamique d'Iran d'avoir libéré deux citoyens français détenus en Iran. Elle a qualifié de mesures productives pour la reconstruction de la confiance. Toujours lors de l'appel, les deux parties ont également discuté de la coopération Iran-Agence. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que l'Arabie saoudite avait nommé un nouvel ambassadeur à Téhéran 2 mois après qu'un accord négocié par la Chine a mis fin à une rupture de 7 ans dans les relations bilatérales. L'Arabie saoudite a présenté hier son nouvel ambassadeur à Téhéran et nous nommerons bientôt notre nouvel ambassadeur auprès du gouvernement saoudien, a déclaré Amir Abdollahian mercredi. Dans le cadre de l'accord signé à Pékin le 10 mars, les deux pays ont convenu de nommer de nouveaux ambassadeurs et de rouvrir réciproquement leurs ambassades dans un délai de 2 mois. Mes collègues travaillent depuis des semaines pour préparer la réouverture de l'ambassade et du consulat, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Par ailleurs, le ministre iranien de l'économie et des finances, Ehsan Khandouzi, est arrivé ce jeudi 11 mai en Arabie saoudite, devenant le premier responsable iranien à se rendre dans le royaume arabe à la suite d'un accord négocié par la Chine entre Téhéran et Riyad. L'Iran a fermement condamné l'inscription par la Suède du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI sur sa liste noire, affirmant que cette désignation viole le droit international et équivaut à une agression contre la souveraineté et la sécurité nationale de la République islamique. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fait ses remarques jeudi, un jour après que le Parlement suédois a voté en faveur de la désignation du CGRI comme organisation terroriste. La mesure illégale du Parlement suédois a été prise sous l'influence des éléments terroristes agissant contre la nation iranienne, a-t-il déclaré. La décision anti-iranienne est contraire aux règles et principes du droit international, y compris l'égalité des souverainetés nationales et la non-ingérence dans les affaires intérieures, et équivaut à une agression contre la souveraineté et la sécurité nationale de l'Iran, a-t-il encore déclaré. Kanani a conseillé au gouvernement suédois de faire preuve de prévoyance face au complot ourdi pour nuire aux relations Téhéran-Stockholm. Le gouvernement suédois, a-t-il ajouté, devrait réfléchir aux conséquences de son acte démesuré et ne pas sacrifier ses intérêts nationaux et ses liens de longue date avec l'Iran au profit des terroristes, du régime sioniste d'apartheid et des ennemis de la nation iranienne, a-t-il conclu. L'Iran a augmenté sa production quotidienne de pétrole brut de 40 000 barils au cours des 3 premiers mois de 2023, se classant 2e parmi les membres de l'OPEP en termes de croissance trimestrielle de la production de pétrole, a déclaré l'administration américaine de l'information sur l'énergie. Les perspectives énergétiques à court terme publiées par cette administration américaine ont estimé à la production totale de pétrole des États membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, au premier trimestre de 2023 à 20,44 millions de barils par jour. Selon le rapport, le volume de la production pétrolière quotidienne de l'OPEP au premier trimestre 2023 a diminué de 480 000 barils par rapport aux 3 derniers mois de 2022. L'actualité, c'est également la Palestine, la lutte de la résistance palestinienne contre les crimes du régime sioniste et à son 4e jour en ce vendredi 12 mai et les sirènes d'alerte à la roquette n'ont pas cessé de retentir à Tel Aviv. Aux premières heures du matin, les sources israéliennes ont rapporté que le nombre d'attaques était élevé et que l'armée sioniste avait subi de lourdes pertes. Des politiciens, des opposants et des membres des médias dans les territoires occupés font pression sur le cabinet sioniste pour mettre fin au conflit. Le site internet de la chaîne 7 du régime israélien a rapporté qu'il y a un consensus pour un cessez-le-feu parmi les rangs politiques et les autorités militaires à Tel Aviv qui s'accordent sur la nécessité de mettre fin aux offensives contre la bande de Gaza. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. L'Iran s'engage à renforcer l'armée syrienne face à Israël. L'armée syrienne est un axe important pour résister à Israël. Lors d'une rencontre mercredi 10 mai à Téhéran avec le général Abdelkarim Mahmoud Ibrahim, chef d'état-major général de l'armée et des forces armées syriennes, le général de division Mohammad Boreri, chef d'état-major des forces armées iraniennes, a assuré que la République islamique contribuerait à renforcer l'armée syrienne et restaurer aux côtés de la Syrie pour affronter le régime israélien. Le général Boreri a décrit l'armée syrienne comme un important axe de résistance anti-sioniste dans la région, affirmant que nous renforcerons cet axe en coopération les uns avec les autres et nous nous opposerons ensemble aux exactions du régime sioniste. Il a déclaré que sa rencontre avec son homologue syrien avait fourni une occasion de discuter d'une formation des forces syriennes à différents niveaux. Les deux responsables militaires ont également abordé le transfert de l'expérience militaire de la République islamique aux forces armées syriennes, ainsi que la reconstruction de l'armée syrienne dans la période d'après-guerre. Le général Boreri a salué les efforts antiterroristes de l'armée syrienne qui ont contribué à rétablir la sécurité à travers la Syrie. « J'espère que la période de reconstruction de la Syrie commencera bientôt », a-t-il souhaité. La Syrie est aux prises avec un terrorisme endémique soutenu par l'étranger en 2011. Les groupes terroristes se sont rapidement emparés de vastes étendues du territoire syrien au milieu de soutien crucial que leur apportait le régime israélien. Israël cible régulièrement les défenses syriennes et fournit également un refuge sûr aux terroristes sur les hauteurs du Golan, dont il s'est emparé en 1967. Cette situation a poussé Damas à demander l'aide de ses alliés, y compris l'Iran. La République islamique a alors commencé à lui fournir une assistance consultative militaire vitale. Ces efforts conjoints ont aidé la Syrie à repousser les groupes terroristes et à restaurer sa souveraineté sur la plus grande partie de son territoire. Pour sa part, le général Abdelkarim Mahmoud Ibrahim a déclaré que Téhéran et Damas pourraient coopérer l'un avec l'autre pour mettre court à la domination des pays impérialistes. Nous bénéficions d'une coopération avec la République islamique depuis longtemps et nous continuerons dans cette voie conformément à nos intérêts communs, a-t-il noté. La rencontre des deux généraux a eu lieu une semaine après la visite historique du président iranien Ibrahim Raisi en Syrie. Lors de son entretien avec Bachar al-Assad, le président iranien a souligné que la République islamique contribuerait à la reconstruction et au développement de la Syrie d'après-guerre. Le président syrien a salué le soutien de l'Iran à la Syrie tout au long du conflit dans son pays. Il a appelé l'Iran à jouer un rôle important dans l'instauration d'une paix durable en Syrie et sa reconstruction. Thank you.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission et sur cette nouvelle édition de débat. Les tensions montent entre l'Ukraine et la Russie. Le 4 mai dernier, donc il y a deux jours, les installations de stockage de pétrole d'une des régions de Russes en Russie ont été attaquées par des drones. Un jour avant, deux drones se sont exposés sur Kremlin. Kiev, c'est-à-dire le gouvernement ukrainien, nie toute implication dans ces attaques. De son côté, la Russie se donne le droit de toute riposte, quand et où elle veut le faire. Nous allons évoquer ce sujet avec nos deux invités, deux experts des questions internationales et qui suivent de très près les évolutions de la région, notamment en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
L'incendie s'est déclaré dans une installation de stockage de pétrole dans la région de Krasnodar en Russie. Un deuxième de ce type dans cette région a rapporté de l'agence de presse TASS, citant une source des services d'urgence locaux. Une deuxième nuit agitée pour nos services d'urgence, a déclaré jeudi matin le gouverneur Veniamin Kond-Raitef, confirmant que des dizaines de pompiers travaillent pour contenir l'incendie à la raffinerie de pétrole d'Ilyinskaya. Aucun blessé n'a été signalé et les résidents locaux ne sont pas en danger. A ajouté Kondratiev, le feu a été entièrement maîtrisé et éteint à 5h30. Bien que le gouverneur n'ait pas révélé la cause présumée de l'incident, une source a déclaré à TASS qu'un réservoir de stockage de carburant avait pris feu tôt jeudi matin, prétendument en raison de l'attaque d'un drone inconnu. Des témoins ont signalé au moins une explosion dans la zone peu avant le début de l'incendie, vers 2h40 heure locale, a écrit RT. L'incident survient un jour après qu'une autre installation pétrolière dans la région de Krasnodar a pris feu, également en raison d'une frappe présumée de drone. Les autorités n'ont toutefois pas encore officiellement confirmé la cause de l'incident dans le village de Volna, à 10 km au nord de la ville portuaire d'Otaman et à proximité de l'extrémité est du pont de Crimée. Fin avril, l'Ukraine a affirmé être à l'origine de l'attaque d'un terminal pétrolier dans le port de Crimée de Sébastopol, qui a détruit quatre réservoirs de pétrole selon l'autorité locale. Kiev a déclaré que le raid visait à jeter les bases de sa contre-offensive printanière prévue de longue date. Tôt mercredi matin 3 mai, deux drones ont explosé au-dessus du Kremlin et du Sénat russe. L'autorité ont déclaré qu'ils avaient été abattus par les défenses aériennes. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts signalés lors de l'attaque que la Russie a imputée à l'Ukraine. Le Kremlin déclarait qu'il se réservait le droit d'exercer des représailles de la manière, au lieu et au moment de son choix. Moscou a déclaré mercredi que deux drones avaient été utilisés dans l'attaque contre la résidence de Vladimir Poutine durant la nuit, ajoutant que les drones avait été mis hors service par des défenses électroniques. La nuit dernière, le régime de Kiev a tenté de frapper le Kremlin avec deux drones qui ont été mis hors service par des systèmes de guerre électronique, a affirmé la présidence russe. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné dans un communiqué que la Russie se réserverait le droit de prendre des mesures de rétorsion là et quand elle le jugera nécessaire.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Je vous présente nos deux invités. Il s'agit d'Arnaud Develet, juriste international, également Fabrice Péor, expert pour l'ONG EOD, qui est avec nous depuis Moscou. Je vous dis bonjour messieurs et merci de nous avoir accordé votre temps pour cette émission. Alors, monsieur Béor, vous qui êtes sur place, vous suivez de très près les évolutions en ce qui concerne ces provocations d'abord. En quoi consistent ces attaques, ces provocations, mais aussi ces ces réactions de Kiev qui nie en fait toute implication dans ces attaques, dans ces provocations.
On peut le voir sur plusieurs actes de drones en eux-mêmes depuis le territoire ukrainien sur le territoire russe, sans compter les nouveaux territoires, c'est-à-dire Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Luhansk. Et vous avez aussi des attentats terroristes faits par des agents ukrainiens en Russie même. Le drone, par exemple, sur le Kremlin, vu l'orientation d'où il vient, c'est un drone qui est parti depuis Moscou sur le Kremlin, et ce qui veut dire que c'est une équipe qui est sur Moscou. Donc l'Ukraine, effectivement, nie toute activité. Ça rappelle un peu d'ailleurs l'État d'Israël sur ses activités terroristes et de destruction, où il ne confirme rien, n'affirme ni ne confirme les actions qu'il mène, puisqu'il démontrerait qu'ils sont dans des actions qui visent non pas des objectifs militaires, mais des assassinats politiques, puisque le président, c'est un assassinat politique. Il y a encore eu une tentative d'assassinat d'un responsable russe aujourd'hui, d'ailleurs, une voiture piégée. Et vous avez donc une situation où cela démontrerait simplement comme toujours d'ailleurs, le banderisme est assez fort, est assez faible militairement, mais est assez fort en général dans le terrorisme. C'est même une partie de sa génétique idéologique d'un point de vue historique. Donc nous sommes dans une situation où Kiev fait des actes. Alors, les attaques de drones sur certains, comme dans le Kouban, le Kraï de Krasnodar, oui, mais c'est très symbolique en réalité. Ça ne change rien d'un point de vue militaire, surtout que ce ne sont pas des objectifs militaires et que ça ne sert pas pour des utilisations militaires, ce qu'ils ont visé. Donc, c'est bien sur des installations industrielles civiles, mais quand vous voyez ce qu'ils font dans le Donbass, on comprend que la destruction, c'est leur principale préoccupation. Ils ont besoin de victoires un peu symboliques, mais je pense qu'ils sont allés un peu trop loin avec ce qu'ils ont fait sur le Kremlin, et ils ont peur des répercussions. Donc ils sont dans la négation, mais ils sont à bonne école, comme je vous ai indiqué, puisque on sait très bien, même Tel Aviv essaye de garder une forme de neutralité d'un point de vue diplomatique, que sur le terrain, on sait très bien quand même qu'il y a une certaine proximité avec la junte de Kiev, la mafia de Kiev, et en cela, ils sont, comme je l'ai indiqué, je le répète, à bonne école. C'est triste parce que ça fait beaucoup de gesticulations médiatiques. Ça fait plaisir dans les médias de l'OTAN où il se gargarise. Ça ne changera pas toujours de toute façon l'issue de la guerre. Ça ne peut faire que la rendre plus violente, donc plus de morts pour un résultat identique. En cela, c'est doublement criminel, non seulement ces attaques, mais également leur glorification par toute la petite mafia russophobe qu'on peut voir sur les médias de l'OTAN et en particulier en France.
Merci pour vos explications, Fabrice Béard. Reste en ligne. Arnaud Develet, juriste international, vous êtes également avec nous par Skype. Maître, vous, de votre point de vue et d'après ce que vient de dire Fabrice Béard, comment analysez-vous dans un premier temps les évolutions sur le terrain, mais aussi ces provocations et leurs objectifs notamment?
Bah écoutez, je m'inscris dans le prolongement de M. Bord, dans le sens où, effectivement, on est en présence d'un État qui pratique le terrorisme, j'allais dire, comme un fait accompli. Hein, et en cela, effectivement, ils ont des proximités avec l'entité sioniste et probablement aussi avec les services britanniques et les services américains. Et en cela, on assiste à une stratégie de terreur, d'essayer d'atteindre la population, retourner la population contre ses dirigeants. Et c'est quelque chose qu'on a pu voir, notamment en Syrie. Moi, ce que je retiens particulièrement, c'est les déclarations de John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, qui, lorsqu'il a été confronté aux attaques donc sur le Kremlin, a fait une déclaration assez curieuse où il a dit qu'il a laissé entendre que Washington avait donné enjoint Kiev de ne pas procéder à des attaques à l'intérieur du territoire russe. Alors de deux choses l'une, soit effectivement les États-Unis sont bien impliqués malgré leur dénégation quant au fait que c'est quelque chose, un conflit exclusivement entre Kiev et Moscou, c'est une admission tacite. Et auquel cas, ils ne contrôlent plus, dans ces cas-là, leur proxy, donc la junte de Kiev. Ou alors, ils prétendent pouvoir avoir un contrôle sur, comment dirais-je, sur les opérations, dans le sens où ils se disent en soutien au niveau du principe de la défense de l'intégrité territoriale de Kiev, mais dans les faits, ils assistent bien plus qu'on peut bien le croire à l'alimentation du conflit, que cette position a été reprise aussi par le ministre entre guillemets des Affaires étrangères de la Commission européenne, Borrell, qui a souligné que malgré les 2 milliards de dollars alloués au développement des infrastructures en Europe, cet argent devait être, il n'avait pas le choix, il devait être envoyé à Kiev. Ce qui laisse entendre que l'Occident collectif dans son ensemble n'a absolument aucune intention de faire baisser les tensions et peut-être de se diriger vers une plateforme de négociation, mais au contraire, qui vise surtout à enflammer le conflit, à prolonger le conflit.
Merci pour vos explications. Fabrice Barr, Maître Develet vient d'annoncer, de prononcer deux hypothèses, soi-disant deux avis. Alors la première serait que les États-Unis ne contrôlent plus la junte en Ukraine, le gouvernement ukrainien, donc il ne contrôle plus la situation. Kiev décide lui-même de ses actes. Le deuxième, ce serait que les États-Unis cherchent à faire prolonger la guerre et ne cherchent pas du tout à faire cesser ces tensions comme ils le prétendent alors à travers divers tribunes. Et quel est votre avis à ce sujet?
Je dirais les deux. Il ne faut jamais sous-estimer la complexité et surtout la bêtise des dirigeants de la junte de Kiev. Les deux, parce que évidemment c'est une guerre américaine préparée depuis très longtemps, d'ailleurs depuis 1991, où on a fait revenir d'Occident, en particulier d'Allemagne et du Canada, tous les banderistes qui avaient été réfugiés, tout d'abord dans la partie ouest de l'Ukraine, où est l'origine de ce nationalisme ukrainien, qui n'a absolument rien, entre guillemets, d'ukrainien, puisqu'ils n'ont jamais fait partie d'un seul et même bloc politique, en tout cas pas partie de l'Empire russe, lorsque le territoire dit ukrainien d'aujourd'hui en était intégré, comme de l'URSS. Et donc, ça, ils ont infusé leur discours historique, leur narratif. Et lorsque vous avez eu, même déjà, la première révolution orange, il y avait déjà les prémices de se mise en avant avec le parti Svoboda. Et quand nous avons eu le coup d'État du Maïdan en 2014, tous ces gens-là ont été mis en avant. Aujourd'hui, évidemment, on ne les met pas en avant dans le Parlement, mais il n'y a même pas besoin de les mettre en avant dans le Parlement, puisqu'ils sont dans toutes les administrations, et l'idéologie en elle-même a quitté ces organisations pour infuser tous les éléments de la société politique et économique et de sociétal, allons-nous dire, de la junte de Kiev. Donc aujourd'hui, c'est la junte de Kiev représente, on va dire, c'était. Aujourd'hui, vous avez les États-Unis qui ont, travaillé. Qui ont travaillé ça depuis 2014. Ils ont soutenu, ils ont fermé les yeux ou favorisé, puisque les États-Unis sont, peu importe, ils utilisent le wokisme dans certains États pour détruire la société, et ils utilisent ces extrémismes idéologiques dans d'autres parties du monde, du moment que ils servent leurs intérêts. Et dans le cas précis, peut-être qu'effectivement, comme toujours, quand ils ont utilisé Daesh en Irak, ça leur a un peu échappé des mains, et quand ils ont aujourd'hui utilisé le banderisme, ça doit peut-être aussi leur échapper des mains, surtout lorsqu'ils arrivent à la corde de leurs possibilités. On voit bien, comme a indiqué M. Develet, que vous avez aujourd'hui plus extrémistes, plus américains que les Américains, c'est l'Union européenne. Les Américains, eux, ont leur objectif, c'était de détruire l'Europe et détruire l'Allemagne principalement, et si en même temps on pouvait diviser l'Europe d'une manière presque définitive, ou tout du moins sur une longue période, bah c'était tant mieux. Ils ont atteint leurs objectifs, mais l'Union européenne a toujours été, là dans le cas précis, plus extrémiste, même que les Américains. Je rappellerai que couper SWIFT, ce n'est pas un projet américain, c'est un projet de l'Union européenne. Les Américains étaient contre au tout début, faut-il l'indiquer. Donc on est dans une situation où vous avez aujourd'hui une junte mandériste qui est à la corde d'un point de vue armement et d'un point de vue même même si on leur donnait beaucoup d'armement, ils ont plus le substrat matériel humain, allons-nous dire, pour mener une offensive qui leur permettrait de gagner cette guerre. Et donc vous avez une situation où quand on est acculé, et ben on revient aux vieilles méthodes, donc les méthodes terroristes de nos amis de Kiev, et qui effectivement peuvent ne pas écouter toutes les recommandations américaines, puisque lorsque vous voyez le danger arriver en face, la raison commence à défaillir et vous revenez à des réactions qui ne sont pas rationnelles, où vous venez à des volontés de destruction au lieu de raison pour négocier. Ils sont pas là en train de négocier, ces gens-là se battent jusqu'à la mort, et malheureusement il va falloir qu'elles viennent vers eux pour que la solution soit prise. Et je pense que les Américains aujourd'hui sont aussi pris dans un piège où ça va peut-être trop loin pour eux, mais dans tous les cas, si ça va trop loin pour eux ou si ça va très bien avec les dénégations ou les affirmations ou les déclarations, que ce sont bien les États-Unis qui, depuis le début, mènent la barre, qui donnent, on va dire, les ordres, les consignes et les lignes rouges que peuvent franchir ou pas la jungle de Kiev. Donc on voit bien qui commande. De toute façon, c'est Washington, c'est pas l'Union européenne, c'est Washington qui commande. Mais voilà, comme toujours, les Américains, avec leur plan magnifique, leur création généralement diabolique leur échappe des mains, et après ils savent plus comment s'en défaire. En cela, peut-être, je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer les gens, mais peut-être qu'on en arrive à une situation attendue, où même la création même de la junte de Kiev va commencer un peu à brûler les doigts de Washington, et c'est la meilleure situation qu'il faut, puisque cette guerre se terminera lorsque Washington et Moscou se mettront d'accord pour que cela se fasse.
Merci pour vos explications, Maître Develet. Vous venez d'entendre les explications de Fabrice Béor. Vous, à votre avis, est-ce que, vous êtes d'accord avec l'analyse de Fabrice Béor? Est-ce que on arrive à un point où les États-Unis, ne contrôlent plus ce qui se passe sur le terrain et qu'il y aura des conséquences néfastes pour les États-Unis et leurs alliés européens?
Moi, je pense que l'objectif des États-Unis, c'est avant tout, effectivement, de continuer l'opération de blanchiment d'argent, parce que tout le monde se fait beaucoup trop d'argent dans les milieux autorisés aux États-Unis, mais aussi en Europe, et que cela fait partie, de toute façon, de cette stratégie d'usure qui avait été mise en avant à l'époque par le rapport de la RAND en 2019. Donc, la Syrie fait partie de cette stratégie d'ensemble. Le conflit dans le Haut-Karabakh aussi, le conflit en Ukraine, bien sûr. Et tout ça participe à, effectivement, de ces objectifs qui sont de mener une guerre d'usure et de drainer les ressources de la Russie, avec l'idée éventuellement, à force d'opérations terroristes avec but psychologique, de retourner à un moment donné la population russe contre ses dirigeants. On sait que, en général, ce genre de méthode ne fonctionne pas, mais les États-Unis, on l'a vu depuis maintenant au moins une vingtaine d'années, de manière soutenue, sont patients, et il n'y a pas de montant limite aux ressources qui sont dépensées pour obtenir gain de cause. On le voit en Syrie, malgré les réconciliations régionales entre des acteurs qui, il y a encore quelques temps, étaient à des points opposés de l'échiquier. Les seuls qui restent pour l'instant, qui s'accrochent comme une moule sur un rocher, sont les États-Unis. Et dans ce contexte-là, il n'y a aucune raison d'imaginer que la stratégie va changer. De toute façon, les néoconservateurs ne reviennent jamais en arrière. Il y a bien un proverbe qui dit qu'ils ne connaissent pas le concept de l'introspection, et que dans cet état de fait, ils vont continuer effectivement à faire rouler à feu douce, mais il y a toujours une chance, un risque, que les choses dérapent. Et on peut penser que ce qui s'est passé il y a deux jours au-dessus du Kremlin franchit une ligne rouge qui est quand même assez préoccupante. Là, on est quand même en présence d'une tentative d'assassinat politique d'un dirigeant. Alors les États-Unis, bien sûr, vont dire qu'ils ne pratiquent jamais ce genre d'opération, mais on sait très bien, et ce depuis au moins 50 ans, qu'ils n'hésitent pas justement à cibler des chefs d'État qui leur déplaisent, et que là, ça pourrait constituer un casus belli, enfin une ligne rouge en tout cas, qui pourrait voir le conflit subir une escalade assez dramatique et donc déraper hors de contrôle. J'ajouterais à cela que Sur un plan militaire, on sait très bien que la situation est très mal engagée pour la junte de Kiev, que cette contre-offensive dont on nous rabâche les oreilles depuis plusieurs semaines n'est pas en mesure actuellement d'être mise en œuvre pour des raisons liées au matériel qui n'est toujours pas délivré à un substrat humain, comme le disait Fabrice Bord, qui déjà lui-même n'est plus du tout un standard qui existait lors du déclenchement de l'opération militaire spéciale russe. Et j'ajouterais à ça qu'au niveau des conditions météorologiques, les armements et les équipements occidentaux sont lourds et qu'avec le dégel, pour l'instant, c'est extrêmement boueux et il n'est pas du tout concevable pour pouvoir mener à bien une offensive qui permettrait ensuite d'alimenter le narratif médiatique qui est surtout la pierre angulaire de l'Occident collectif et de ses proxys à Kiev. Hein. Le conflit a été alimenté, ce sont des espèces de victoires militaires imaginaires, des interprétations de retrait tactique russe comme des victoires militaires ukrainiennes, alors qu'il n'en est rien. Et c'est pour ça aussi, je pense, encore une fois, on assiste à cette recrudescence d'attaques terroristes, parce qu'il faut meubler, il faut alimenter le récit narratif, il faut pouvoir continuer à justifier les envois d'armes et d'argent, et qu'avec la campagne présidentielle américaine qui va commencer fin août, on peut penser que ce sera bien sûr le sujet de fond principal qui fera les candidats s'affronter. Alors après, est-ce qu'il y aura un rejet unilatéral de ce qui a été fait depuis 14 mois, j'en doute. Mais je pense que pour le complexe militaro-industriel américain et pour les stratégistes néoconservateurs, le fait même qu'il puisse y avoir une remise en cause de l'intensité de l'assistance prêtée à Kiev est hors de question. Donc il faut absolument alimenter la narrative et des opérations de terroristes un peu à l'aveugle.
Merci infiniment pour vos explications. Alors Arnaud Develet, juriste international, et Fabrice Bauer, expert pour l'ONG, étaient avec nous pour ce débat. Voilà, merci à vous, à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur les récents crimes et agressions israéliennes contre la bande de Gaza et la riposte de la résistance palestinienne. Ce mardi 9 mai, au moins trois commandants de haut niveau du djihad islamique de la Palestine ont une série de frappes ciblées du régime sioniste sur la bande de Gaza. De fortes explosions ont été entendues mardi 9 mai à l'aube, dans l'ouest et le centre de Gaza, on a appris de sources palestiniennes. Quelques minutes plus tard, le porte-parole de l'armée israélienne a annoncé que les avions de combat israéliens ont visé des positions du djihad islamique dans la bande de Gaza. L'agence de presse palestinienne Shahab a rapporté pour sa part qu'un quartier de la ville de Rafah situé à Gaza avait fait l'objet de frappes de chasseurs israéliens. L'armée sioniste a déclaré dans un communiqué que Khalil Bahtini, le commandant des brigades Al-Rots dans le nord de la bande de Gaza, Tarek Ezzeddin, un porte-parole du mouvement qui gère également les opérations de représailles en Cisjordanie et à Gaza, et Jihad militaire du mouvement ont été tués. Selon les derniers rapports suite aux nouvelles agressions israéliennes contre la bande de Gaza, 29 Palestiniens ont été tués en martyr. Réagissant à ces assassinats, des journalistes palestiniens ont écrit que cela rappelle les attaques surprises du régime sioniste contre les dirigeants du mouvement Hamas en 2008 qui ont déclenché la guerre de cette année-là. Le mouvement de résistance du djihad islamique a confirmé que trois hauts responsables de ce mouvement avaient été tués ainsi que leur épouse et certains de leurs enfants. Nous affirmons que le sang des martyrs augmentera notre détermination. Nous ne quitterons pas nos positions et la résistance continuera, à déclarer le mouvement. Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a également averti qu'Israël paiera le prix de ses crimes. Assassiner les dirigeants avec une opération perfide n'apportera pas la sécurité à l'occupant, mais plutôt plus de résistance, a déclaré Ismaïl Haniyeh. En réaction aux agressions israéliennes contre la bande de Gaza, l'Iran a dénoncé les dernières frappes aériennes d'Israël sur Gaza et a appelé à une action dissuasive immédiate. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fermement condamné les dernières attaques aériennes terroristes d'Israël contre la bande de Gaza, qui en fait des dizaines de morts et de blessés. Nasser Kanani a déclaré que l'action israélienne est un signe de la faiblesse du régime agresseur face aux actes héroïques de résistance de la jeunesse palestinienne en Cisjordanie et à Rots, ajoutant que les frappes aériennes visent à détourner l'opinion publique de la crise interne en Israël. Ailleurs, dans ses remarques, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a noté que le silence et l'inaction des organisations internationales et des pays occidentaux face aux actes inhumains d'Israël qui se sont intensifiés contre le peuple palestinien ces derniers mois ont encouragé le régime de Tel Aviv à poursuivre ses crimes. Cela sera inscrit dans l'histoire comme un précédent honteux pour les faux défenseurs des droits de l'homme, a-t-il déclaré. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a également appelé à une action immédiate, efficace, dissuasive et coordonnée des pays islamiques pour faire cesser les crimes israéliens. En réaction aux agressions israéliennes contre la bande de Gaza, le chef du bureau politique du Hamas a fermement condamné l'assassinat par Israël de trois hauts commandants du djihad islamique, affirmant que le régime d'occupation a commis une grave erreur de calcul et paiera un lourd tribut pour son acte d'agression. Azem Kassem, porte-parole du Hamas, a déclaré: nous félicitons notre nation pour le martyr d'un groupe de commandants de la résistance dans la bande de Gaza. L'occupation israélienne porte l'entière responsabilité du dernier acte d'agression sur la bande de Gaza et le front de la résistance continuera à défendre notre peuple et nos valeurs sacrées. Il a par ailleurs précisé que le peuple palestinien et ses groupes de résistance savent comment frapper l'ennemi durement et répondent aux crimes d'assassinat d'un certain nombre de commandants des brigades Al-Rots. Par ailleurs, le chef du bureau des médias du djihad islamique, Davoud Shehab, a souligné que toutes les villes et colonies situées au plus profond des territoires occupés par Israël sont palestiniens. Nous promettons à nos martyrs, à nos dirigeants et à notre peuple que l'ennemi sioniste ne pourra pas s'en sortir indemne. Nous resterons fermes dans nos positions et continuerons à marcher sur la voie de la résilience, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision Al-Rots à Lyon. En outre, Mohamed Al-Hindi, membre du bureau politique du djihad islamique, a déclaré que l'ennemi israélien paiera le prix du crime perfide qu'il a perpétré contre les commandants supérieurs des brigades Al-Rots. La résistance continue et s'intensifie. Elle déterminera la fin de ce conflit. Le martyr est notre dignité et l'assassinat de nos commandants montre le chemin de la lutte pour nous, a-t-il précisé. Le Hezbollah libère une nouvelle agression israélienne contre la bande de Gaza. tout en présentant ses condoléances pour la mort en martyr des hauts responsables du mouvement du djihad islamique de la Palestine, le Hezbollah libanais a annoncé qu'il soutiendra toute action entreprise par la résistance palestinienne contre le régime sioniste. Tout en présentant ses condoléances au mouvement de résistance et à l'Umma islamique, le Hezbollah libanais a annoncé qu'il était fier des trois membres du mouvement du djihad islamique et de la Palestine qui s'étaient élevés jusqu'au rang des martyrs. La résistance libanaise a souligné « Le meurtre des commandants de la résistance augmente la vigilance et l'unité de notre Oumma et renforce sa détermination à poursuivre avec vigueur le djihad et la résistance jusqu'à la victoire complète ». En réponse aux nouveaux crimes commis dans la bande de Gaza, le porte-parole officiel du mouvement Ansar Allah du Yémen, Mohamed Abdel Salam, a également souligné que la résistance palestinienne était en droit d'intensifier jusqu'au plus haut niveau possible le conflit avec les sionistes. C'est ainsi que l'ennemi sioniste comprendra qu'il doit impérativement payer le prix de ses crimes, a-t-il dit en ajoutant que pour ce faire, les Palestiniens devaient être aidés des autres nations de la région. Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement de salut national au Yémen a également annoncé dans un communiqué que l'agression du régime sioniste était une violation flagrante des valeurs humaines et des traités internationaux. Dans ce contexte, le ministère syrien des Affaires étrangères a indiqué que les déclarations et les condamnations ne suffisent plus et que ce qu'il faut maintenant, c'est prendre des mesures concrètes pour mettre fin à ces tueries israéliennes contre le peuple palestinien et répondre aux autorités israéliennes qui tentent en réalité de dissimuler leur propre crise interne. Le porte-parole du ministère jordanien des cités d'une action immédiate de la communauté internationale pour arrêter les exactions sionistes et soutenir la nation palestinienne. Ce mercredi 10 mai 2023, la résistance palestinienne a tiré une centaine de roquettes sur des cibles israéliennes. Le commandement conjoint de la résistance palestinienne a annoncé que ces tirs de roquettes sont le début d'une nouvelle opération pour faire regretter l'ennemi sioniste d'avoir assassiné les commandants du djihad islamique de la Palestine. Selon des sources locales, rien qu'en une heure, la résistance palestinienne dans la bande de Gaza a tiré plus de 100 roquettes mercredi 10 mai sur des colonies de peuplement près de la bande de Gaza. La résistance palestinienne a fait état du tir des dizaines de roquettes sur Ashkelon, Sderot, même la ville de Tel Aviv n'a pas été épargnée. Des images diffusées par des sources israéliennes montrent des incendies dans des zones agricoles aux alentours de Tel Aviv, les sionistes craignant l'intensité des dégâts. Le journaliste de la chaîne israélienne I24 rapporte que des explosions ont été entendues à Tel Aviv. Il a fait état aussi des efforts de la DCA israélienne pour intercepter les roquettes de la résistance tirées depuis la bande de Gaza. La plupart des ministres du cabinet de Netanyahou, dont le ministre des Communications Shlomo Kari, se sont réfugiés dans les abris, comme la majorité des habitants de colonies israéliennes. Des vidéos en provenance de diverses régions de la Palestine occupée montrent les Israéliens fuir leurs maisons, les rues et les plages pour se rendre dans les abris. Davoud Shehab, un haut commandant du djihad islamique de la Palestine, a déclaré que c'est notre riposte aux criminels israéliens qui ont assassiné nos commandants. Cette opération s'effectue donc en représailles aux exactions des occupants sionistes. L'opération conjointe de la résistance est porteuse d'un message aux Israéliens. Le cabinet et l'armée d'occupation sont les seuls responsables de l'escalade de la tension, a-t-il précisé. La résistance palestinienne a promis de riposter aux frappes. C'est dans ce contexte que le leader du Hamas, Ismaïl Haniyeh, ayant déclaré mardi 9 mai que l'assassinat des commandants à Gaza apporterait une plus grande résistance face à l'occupation israélienne. Rappelons qu'Israël a bloqué les deux points de passage commerciaux avec Gaza, une mesure qui empêche l'entrée de marchandises, de carburant et d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Environ 130 Palestiniens ont été tués par Israël depuis le début de 2023.